Est-ce qu'on peut parler aussi des lieux dans ce livre? Parce qu'il y a effectivement la dimension du temps, mais il y a aussi la dimension de l'espace. On vous retrouve dans des lieux, on m'a parlé du 7e arrondissement, de ce périmètre.
17e, oui, ça c'est une unité de lieu. Mm-hmm. Je dirais même que j'ai réfléchi à ça, c'est-à-dire qu'il fallait une unité de lieu. Je tourne autour, je vais faire mon travail aux éditions, etc. Mais tout à coup, ça s'est mis à vivre, à résonner. Et donc l'unité de lieu ouvrait sur une multiplicité du temps, justement. Le lieu est unique, on fait le tour du pâté de maison, le tour du quartier, passe rue de Lille. Ce qui me semblait intéressant, en plus il y a l'histoire des souterrains mystérieux, c'est dans la maison d'édition, on peut déboucher, s'enfuir, déboucher qu'est Voltaire, prendre des bains. L'histoire est là. Une histoire très 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 curieuse, c'est-à-dire que c'est plein d'individus comme contradictoires, et heureusement qu'ils le sont, ça a toujours été la doctrine du pacte avec l'esprit de Gallimard, de Gaston Gallimard. Et donc, ça m'a paru tout à coup être extraordinairement romanesque. On peut faire des essais sur l'édition Gallimard, sur la NRF, etc. Des éditions, pourquoi pas, il faut qu'il y ait du savoir, des informations. Mais de là en tirer une conséquence romanesque, c'est tout à fait autre chose. Or, il s'est passé là des œuvres, enfin c'est étonnant de voir qui a respiré là en passant, des gens qui ne se saluaient même pas. Qui était ennemi, qui se serait parfois fait fusiller. Comme disait Bauriac, vous comprenez, et au fond, à la fin de la guerre, c'était la lutte alors pour le pouvoir, et c'est alors entre Malraux et Aragon, c'est à qui serait le premier à faire fusiller l'autre. C'est très romanesque. On peut lire ça comme des faits, mais avoir connu un certain nombre de personnes, par exemple Georges Bataille, dont j'ai la plus grande admiration, avoir eu ce contact, avoir lire les livres, savoir ce qui s'est passé, voilà. Et j'insiste sur le fait que Poésie de l'autre amont, il en est resté que 5 exemplaires, s'il n'y avait pas eu, aucune saison en enfer, qui valait 1 franc. Publié à l'Alliance typographique universelle à Bruxelles, dans une petite rue. Il a fallu, je ne sais pas combien de temps, pour qu'on se rende compte que... C'est pour ça qu'il faut tempérer le... Voilà.
Est-ce que parmi ces voyageurs...
La marchandise n'a pas forcément raison. Voilà.
Est-ce que parmi ces voyageurs du temps, justement, Lautréamont et Rimbaud occupent une place un peu à part?
Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que finalement, quand on analyse ça à la loupe, on n'a pas fait à part depuis ces années très étranges. Hein, c'est la fin de.
Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par on n'a pas fait un pas?
Je vois rien qui soit dans l'ordre du français, hein, si on prend le français, qui soit comparable comme nouveauté extraordinaire. Voilà, je ne vois pas. Vous m'avez demandé de citer mes 10 livres préférés.
Oui.
Et vous avez. Et ça m'a posé un problème parce que tout de suite, j'ai une bibliothèque quand même. Hein, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Alors je vais lui dire Homère, la Bible, patati et patata, puis alors on n'en sort plus. Alors je n'ai pris que des auteurs français, exprès. D'ailleurs, la statue du Bernin, Louis XIV, qui est là, Bernin, admirable sculpteur, vous tournez autour de ce Louis XIV à cheval, et vous avez vraiment quelque chose qui est tellement génial que bon. Alors, je vous ai répondu, je crois, que, je ne citerai que 10 auteurs français. Et alors, je les énonce, si vous voulez bien, c'est Pascal, c'est Saint-Simon, c'est Voltaire, c'est Chateaubriand, c'est Baudelaire, c'est Proust, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Proust, André Breton, Manifeste des surréalismes, et Céline Féry pour une autre fois. Voilà. Voilà mes 10 livres préférés. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas d'étrangers. Eh bien non. Ou plutôt si. Ils sont tous étrangers. Pour nous.
Pour vous et
c'est nous qui sommes leurs étrangers. Pardon ? Je trouve pas. J'avais franchement pas la place. Il me fallait plutôt Saint-Simon. Maintenant, on peut faire 10 femmes. Mais Nathalie ne m'a pas demandé mes 10 livres de femmes préférées.
Non, je n'ai pas
mis de ce qui, je dois dire, a été un soulagement, parce que je ne m'attendais pas à une telle libéralité.
Mais ce choix de prendre des... Parce qu'effectivement, moi, je m'attendais à vous voir citer Dante, vous voir citer...
Eh bien non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense vraiment que dans la tourmente où nous sommes, depuis fort longtemps, les Français ne sont plus dignes d'eux-mêmes. Il faut leur rappeler un petit peu ces très grandes choses. Ils ne sont pas dignes de leur passé, présent, avenir. Voilà. Qui ignore le passé ne peut pas être dans l'avenir. Que des Français. Puis d'abord, j'écris en français. Il faudrait que ça se sache. I am too French, comme disent les Américains.
En même temps, dans un entretien, je ne sais plus dans quel journal, j'ai vu que vous vous définissiez comme un auteur européen de langue française.
D'origine française.
D'origine française, pardon.
Oui. Ça, j'y tiens beaucoup. Mais donc d'origine française. Et puis ensuite, européen. Seulement l'Europe, rien ne va. Donc, voilà. La France est le pays pauvre qui se déclare de l'Europe, alors qu'elle devrait se savoir être la capitale de l'Europe.
Mais cette idée d'être un auteur européen...
C'est la haine de soi, c'est la culpabilité, absolument. C'est effrayant, effrayant. J'ai quelques amis français, je les compte sur les doigts.
Mais cette idée d'être un auteur européen d'origine française, pourquoi pas un auteur
mondial,
ça
n'existe pas à part moi. Oui. Parce que je vous le dis tranquillement. Hein. Ça n'existe pas par moi parce que tous les intellectuels ou les écrivains français se foutent éperdument de l'Europe. Il n'y en a pas un qui soit en train de... Non. Tout se passe au Proche-Orient et aux États-Unis d'Amérique. C'est tout. Pas pour moi.
C'est quoi votre souci de
l'Europe ? Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a pour moi une vie en Europe absolument, mais merveilleuse. Merveilleuse. Venise, par exemple.
Par exemple.
Par exemple.
Et vous auriez pu, quand je vous ai demandé ces 10 livres, me citer des 10 auteurs européens ?
Des livres des auteurs européens aujourd'hui ?
Oh non. Ces voyageurs du temps.
Ben voilà, on va prendre. Ça va être vite fait. On va prendre les plus grands, alors, carrément. Oui, une fois que vous avez Shakespeare, vous avez tout. Une fois que vous avez Dante, vous avez tout. Une fois que vous avez Cervantes, vous avez tout, etc. La situation française est très différente de tous les autres pays d'Europe. La littérature française est celle qui est la plus proliférante, la plus contradictoire, la plus riche, de très loin. Partout ailleurs, vous avez un fondateur. Si vous dites Montaigne, oui, si vous voulez, mais il y a autre chose aussi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça gêne et que ça doit sortir de l'image. Parce que c'est trop nuancé, c'est trop compliqué, c'est trop contradictoire, c'est trop paradoxal. On ne peut pas aimer à la fois Sade et Bossuet, ou Sade et Pascal. Bref, j'ai beaucoup écrit là-dessus et je crois que je vais insister à nouveau parce qu'il y a une honte d'être français qui est facilement explicable par des raisons historiques qui sont concentrées sur la Révolution française. Voilà.
Développer un peu.
Place de la Concorde.
C'est tout.
Oh oui, on n'en finirait pas là. Il y a une culpabilité effroyable. De tout ce qui, enfin, c'est ce que j'appelle les placards dans les cadavres. Vous ne comprenez pas les cadavres dans les placards. C'est, pour la période récente, c'est 40-42, c'est Vichy, ça n'arrête pas de passer, ça reste là. C'est le Veldiv, c'est l'antisémitisme, c'est le fascisme, la collaboration. Vous avez ça, ça remonte, ça remonte. Vous avez après la collaboration communiste, après le pacte qu'on ne doit plus appeler germano-soviétique, mais stalino-nazi. Alors là, ça remonte. Bon, après vous avez la guerre d'Algérie, qu'il était encore interdit d'appeler la guerre, mais qu'on avait le droit d'appeler le maintien de l'ordre. Hein. Ça fait des mois dans les hôpitaux militaires, je sais de quoi je parle. Puis après, vous avez eu 68. Alors là, oh, un spectre qui risque. Oh, est-ce qu'on va pas y avoir? Il faut liquider. Attends. Bon, enfin, voilà un pays qui n'arrête pas d'avoir honte de soi et de vouloir. Voilà, c'est clair. Quand on lui dit vous ne méritez pas vos grands écrivains, vous ne méritez pas votre archive, vous ne méritez pas d'exister en étant si médiocre, ce que Baudelaire appelle la tyrannie des médiocres. Hein. Alors, ils ne sont pas contents. Bah, tant pis.
Vous vous sentez très solitaire comme...
Pas du tout. Tous les morts sont là.
Oui. Parmi les voyageurs du temps.
Oh là là, il y a une foule, vous ne pouvez pas savoir, qui demande de l'aide. Toutes les nuits, ils sont là.
Il vous appelle.
Hello, hello, oui, comme dans Hamlet, vous savez le spectre. Hello, hello. Oh là là, j'ai pas le temps pour les mortels vivants, pour les morts vivants. Les morts sont très en danger. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, vous savez, comme dit Baudelaire admirablement. Hello, hello. Ah oui. Et vous ne pouvez pas savoir toutes ces voix. C'est très émouvant. Pas du tout solitaire, non. C'est si je rencontrais beaucoup de gens que je le serais. Old people pour un sou.